Alors que le soleil déclinait à l'horizon, baignant la cité dans un chaud crépuscule, le bruit des festivités envahit les rues de Sarnath. Des groupes de fêtards se répandirent dans les rues pavées d'onyx, chantant, dansant et buvant dans de longues farandoles colorées. Les familles se rassemblaient pour partager un festin, faisant flotter d'exquises odeurs de plats fins et épicés dans les rues animées. L'allégresse de la célébration la plus importante de la cité, celle de la victoire sur la sinistre cité préhistorique d'Ib, emplissait chaque habitant, à l'exception d'un vieil homme. Ce vieillard, voûté par les années malgré la jeunesse quasi perpétuelle des habitants de Sarnath, avait refusé tous les honneurs et toutes les invitations qui lui étaient parvenues les derniers mois. Quand les envoyés du roi lui-même traversèrent la ville pour parvenir à sa demeure, le vieillard déclina l'invitation. La caravane bigarrée, composée de cavaliers richement harnachés, avait repris la route du palais, les soldats ne faisant plus sonner leurs cors ou tinter leurs nombreuses clochettes. Bien que le souverain fût courroucé par ce refus, il feint de comprendre la décision de son sujet et sauva les apparences en inondant le vieil homme de présents aussi rares que précieux. Le vieillard ne goûta cependant ni les vins ni les fruits exotiques que le roi lui avait offerts. Car ce vieil homme savait qu'il vivait sa dernière commémoration de la destruction d'Ib et qu'avec sa mort, le dernier témoin de cette bataille disparaîtrait avec lui. Antek, tel était son nom, décida de porter la toge la plus sobre qu'il trouva dans sa maison, tissée de laine brute des moutons sauvages des collines environnantes. Puis il s'assit sur un tapis tressé de papyrus devant l'âtre de sa cheminée de porphyre et ferma les yeux. Un jeune homme à la silhouette élancée longeait la haute haie de laurier fleuri qui entourait le domaine de son arrière-grand-père. À la fois ravi de revoir son illustre aïeul et contrarié de devoir repousser ses projets nocturnes, il sourit malgré lui quand une simple trouée dans la haie lui indiqua l'entrée du jardin de son ancêtre. Iphiclès retira de son visage le masque de jade représentant un habitant d'Ib et ceignit son front d'un bandeau d'argent. Il rejeta ses épais cheveux blonds derrière ses larges épaules, puis pénétra chez Antek. Le jeune homme adorait son arrière-grand-père et recherchait souvent sa présence et ses conseils. Les souvenirs heureux affluaient de la mémoire du guerrier. Il leva ses yeux verts quand il passa sous les branches de deux magnolias imposants qui encadraient l'entrée de la propriété. Les arbres semblaient s'embrasser tendrement au-dessus de lui. Iphiclès saisit un gobelet de verre moulé en forme de grappe de raisin à sa ceinture et le porta à ses lèvres. Il sirota ainsi le vin pétillant tout en poursuivant son chemin vers la demeure d'Antek, au milieu de ce parc immense. Il emprunta le sentier de gravier blanc, bordé de cerisiers en fleurs. Leurs pétales roses recouvraient presque entièrement le chemin et tombaient, telle une pluie pastel, sur les cheveux du jeune homme. Le guerrier arriva au centre du vaste jardin. Sous des rosiers grimpants, une pergola de bois blanc recouvrait un croisement menant aux différentes sections du parc. Il décida d'emprunter le chemin le plus long, celui qu'il préférait parcourir étant enfant. Sa promenade le mena vers les bassins du jardin. Le jeune homme emprunta un pont de marbre qui enjambait le petit canal d'eau sombre et paresseuse qui serpentait dans la propriété. Il s'arrêta quelques instants pour observer les reflets d'argent et bioluminescents des poissons originaires d'océans lointains, hantant les cours d'eau du parc. De légers sillons à la surface de l'onde faisaient danser les lotus. Poursuivant sa route, Iphiclès ouvrit les bras d'un geste théâtral, puis s'inclina devant la fontaine de bronze qui trônait au milieu d'un petit labyrinthe de buis. La vasque était surmontée d'une imposante statue de son aïeul. Il brandissait un pilôme tout en piétinant une abjecte créature d'Ibe. Jadis, devant ce monument, Antek racontait à ses descendants la destruction de la ville peuplée de créatures grotesques et répugnantes. C'est en écoutant ces récits qu'Iphiclès décida d'embrasser la carrière des armes et se détourna, pour un temps, de l'atelier familial de parfumerie. Remarquant que les ombres s'allongeaient lentement et que la nuit s'immisçait furtivement dans le jardin, le jeune homme sortit de ses songes et reprit son chemin. Il aperçut enfin la demeure de son aïeul. L'obscurité dévorait à présent la cité tout entière. Le vétéran entendit des pas résonner devant son logis, puis son arrière-petit-fils entra dans la pièce. Son visage juvénile, d'une beauté remarquable, se déforma de surprise à la vue de son arrière-grand-père, assis sur un simple tapis dans une toge digne d'un mendiant. Ce dernier semblait encore plus accablé par les années et ses souvenirs qu'à l'accoutumée. D'un simple geste, son aïeul l'invita à s'asseoir. Le jeune guerrier prit place sur des coussins de soie que le vieil homme avait préparés à son intention. Il saisit la coupe de cristal devant lui et but une gorgée de vin épicé. Sa main hésita quelques instants au-dessus du plateau de fleurs comestibles pour finalement saisir un beignet de fleurs de lavande. Puis il attendit silencieusement. Un long soupir brisa le silence avant que la voix d'Antek ne résonne faiblement dans la pièce.
« Je vais mourir cette nuit, mon enfant. »
Le vieillard arrêta le jeune homme dans sa tentative de réponse par une main décharnée levée devant sa bouche.
« Je te présente déjà toutes mes excuses pour avoir gâché les projets que tu avais sûrement établis pour cette nuit. Mais je dois à présent transmettre mon fardeau et ainsi accabler un autre être humain que moi. Tu vas devenir un homme ce soir, mon garçon, comme je le suis devenu à cette même date, il y a plus de 100 ans déjà. »
Antek désigna de son doigt fin une bûche de bois exotique à côté de la cheminée. Le jeune homme la plaça dans l'âtre, ravivant ainsi le feu et la lumière. Les ombres dansaient dans la pièce et sur le visage de son aïeul, tandis que le bois, en se consumant, exhalait un doux parfum musqué.
« Je vous ai souvent raconté l'histoire de la destruction de la ville d'Ib. Je vous ai menti. Ce soir, je vais te confier, et à toi seul, la vérité sur ce moment aussi capital pour moi, pour notre cité que pour l'humanité tout entière. Notre cité était alors en effervescence, une noire effervescence, nourrie par la haine de nos hideux voisins. Notre dégoût se mua en peur, puis notre peur en colère. Ce sentiment déborda, entraînant les habitants de notre chère cité dans une sorte d'extase guerrière. Les discours belliqueux résonnaient sur chaque place. Les appels à la guerre étaient hurlés par les habitants les plus doux et aimables. J'avais aperçu plusieurs fois les habitants de la cité d'Ib, comme la plupart des habitants de Sarnath. Je m'amusais à m'effrayer, comme tant d'autres jeunes hommes de la cité, à explorer les alentours d'Ib afin d'apercevoir leurs grotesques habitants. Et je m'enorgueillissais quand je parvenais à distinguer leurs silhouettes inquiétantes ou leurs yeux globuleux et blancs perçant les ténèbres et la brume. Je ressentais, comme tous, un indéniable et instinctif rejet viscéral de ces créatures. Je hurlais aussi mon approbation à la guerre et à la destruction d'Ib. Mon père me prépara du mieux qu'il le put pour cette bataille. Il m'acheta le meilleur falcata qu'il put payer, ainsi qu'un plastron musclé et brillant comme l'argent. Un petit bouclier rond complétait ma panoplie. La fierté illuminait les visages des habitants de Sarnath quand notre armée quitta la ville. Imagine, les milliers de guerriers marchant d'un même pas au son des holos et des carnix. Des poètes déclamaient des vers sur les remparts de la cité en notre honneur. Les bannières et les vexillums claquaient dans le vent chaud du matin. Les habitants jetaient des bouquets de fleurs sur notre route et certains guerriers se tressaient des couronnes de coquelicots dont ils se saignaient le front. En vérité, ce fut le spectacle le plus magnifique qu'il me fut donné de contempler dans ma trop longue existence. Les sons chaleureux de la cité s'estompèrent petit à petit alors que les colonnes de guerriers se dirigèrent vers la cité ennemie. Les champs et les vergers disparurent alors que les rivages du lac devenaient de plus en plus sauvages et hostiles. Même le lac que j'aimais tant semblait devenir étranger. L'éclat du soleil disparut dans une brume s'élevant de ses eaux. Les guerriers se donnèrent du courage en chantant des hymnes martiaux ou en écoutant les faits d'armes des guerriers de jadis. Les chants cessèrent brusquement quand les premiers cris d'alerte retentirent. Les éclaireurs jurèrent que des ombres semblaient les suivre et les observer. Mais les encouragements des guerriers les plus expérimentés rassurèrent quelque peu les plus jeunes. Je me souviens encore du visage noble du lancier marchant à ma gauche. Sa barbe était grise et coupée courte, son regard à la fois dur et compréhensif. Il ne dit pas un mot, mais me posa paternellement la main sur mon épaule et m'encouragea d'un hochement de tête. Puis le sang des milliers d'hommes se glaça dans leurs veines quand la cité d'Ib apparut au milieu de la brume. Mon esprit se ferma devant ce spectacle étrange. Ainsi, j'éprouve de grandes difficultés à me remémorer les détails de l'architecture de cette cité antédiluvienne. La brume qui noie mes souvenirs est aussi épaisse que les nappes de brouillard qui baignent les étranges constructions inhumaines. Je me souviens seulement de bâtiments bas, gris et luisants, comme humides, sans fenêtre aucune. Des monolithes colossaux émergeaient de la brume et nous glaçaient le sang. Comment ces créatures aussi grotesques avaient pu lever des pierres aussi prodigieuses? Les habitants eux-mêmes sortirent paresseusement de leur demeure. Les êtres d'Ib nous révulsèrent de la manière la plus viscérale qui soit. Tout chez eux était étranger à notre propre nature. Leur démarche simiesque et lente, telles les paresseuses arboricoles des jungles lointaines, leurs lèvres pendantes et charnues, leurs yeux globuleux sans expression, et leur absence totale de réaction face à la vue de notre hoste. Le silence régna dans nos rangs. Puis la voix claire de notre polémarque retentit. Par quelques ordres brefs, il déploya nos forces. Quel spectacle! Les unités manœuvrèrent afin de former un arc de cercle face à nos ennemis indolents. J'aperçus alors mon cousin, Bélisaire, en compagnie de son unité de frondeurs. Il croisa mon regard et me salua d'un sourire carnassier. Il avait décoloré ses cheveux avec de la chaux et les avait dressés sur sa tête, comme le faisaient nos farouches ancêtres guerriers. Puis il détacha sa fronde de sa taille et saisit le manche de son arme attachée dans son dos. En quelques instants, les frondeurs tenaient leur fustibale en main. Quand le polémarque baissa son glaive, la bataille débuta, même si je répugne à appeler les événements qui suivirent en ce terme. Les projectiles des frondeurs s'abattirent sur la cité d'Ib. Plusieurs billes d'argile et de plomb, gravées d'anathèmes et d'insultes imagées, frappèrent les étranges habitants. Certains levèrent leurs membres torves dans de vaines tentatives de défense, mais la plupart restèrent stoïques face à la menace. Quelques-uns s'écroulèrent, arrachant de farouches cris de guerre et de victoire aux gorges humaines. Puis les armes de siège envoyèrent leurs projectiles mortels sur les habitations luisantes. Les onagres étaient d'une efficacité redoutable. les lourdes pierres fracassèrent les bâtiments et écrasèrent les habitants. Les êtres d'Ib semblaient spectateurs de leur propre destruction. Je fus étonné par le silence qui régnait dans cette cité de cauchemars. Aucun cri, aucune protestation, aucune malédiction ne sortait des bouches aux lèvres épaisses et pendantes. Puis ma légion reçut l'ordre d'envahir la ville. Serrant mon arme dans mes mains moites, je hurlais avec les autres mon cri de guerre avant d'avancer. Je baissais instinctivement la tête quand les projectiles des onagres et des frondeurs passaient au-dessus de moi. Le sol devenait de plus en plus boueux à l'approche de la ville maudite, et nous pataugeâmes littéralement dans la vase quand nous atteignîmes les premières habitations. Nous hurlâmes de plus belle en nous répandant dans la cité. À mon plus grand étonnement, les rues étaient pavées. Finalement, à l'angle d'un bâtiment, je faillis percuter un habitant de la cité. Ce seul souvenir suffit à vider mon corps du peu de chaleur qu'il possède encore. Cette bête me fixa de ses orbes blanchâtres un long moment, n'esquissant aucun mouvement. Instinctivement, je brandis mon falcata, mais avant de frapper, je remarquai qu'il se tenait agenouillé à côté d'un autre corps verdâtre allongé sur le sol. La seconde créature était visiblement blessée. Un liquide visqueux s'écoulait d'une large plaie à la tête. Était-il possible que cet être d'Ib tentait de porter secours à son congénère? Je baissai mon arme, incapable d'abattre ma lame. Je ne pouvais détacher mon regard de ce faciès hideux. Ce moment sembla durer une éternité. L'irruption de plusieurs de mes frères d'armes dans la ruelle brisa la scène la plus étrange de toute mon existence. Ils se jetèrent sur les êtres d'Ib et les frappèrent de leurs armes. Plusieurs coups de lance percèrent le corps de la créature devant moi, avant qu'un habile coup de hache ne fende son hideux visage en deux. Puis les guerriers se jetèrent sur la créature à terre et firent pleuvoir une grêle de coups sur le corps visqueux. Devant ce spectacle, je me détournai et vomis sur les pavés de pierre grise. Voyant l'interrogation dans le regard de mes camarades, je mentis en affirmant que l'horrible odeur de ces créatures m'avait rendu malade. Ce fut le premier d'une longue liste de mensonges. La suite de ce que je refuse désormais de qualifier de bataille fut un massacre. Les êtres d'Ib n'esquissèrent jamais le moindre signe de défense. Ils se laissèrent assassiner jusqu'au dernier dans cette boucherie sans gloire. Pour ne pas éveiller les soupçons de mes camarades, je courus avec eux au milieu des ruelles, hurlant, vociférant et abattant mon arme sur les corps des créatures déjà à terre. Comme les autres, je fus recouvert de cet ichor verdâtre servant de sang aux êtres d'Ib. Ce carnage dura une éternité. Je fus soulagé quand la sonnerie des carnix résonna au-dessus de la cité. Je ne me joignis pas aux cris de joie annonçant notre victoire. Des larmes amères coulèrent sur mes joues et tracèrent des sillons dans le sang vert des créatures qui maculaient mon visage. La peur, le dégoût et le soulagement se mêlaient sur la face des guerriers quand ils se rassemblèrent. Je ne trouvais jamais le courage d'interroger mes frères d'armes au sujet de l'absence de réaction des êtres d'Ib. Je suivis aveuglément les ordres donnés par le polémarque dans une vaine tentative d'oublier ce que je venais de vivre. Mais les suites du massacre furent tout aussi pénibles. À l'aide de longues perches, nous transportâmes les corps des habitants de la cité vers le lac et les immergeâmes dans ses eaux sombres. Enfin, notre dernière tâche fut tout aussi étrange qu'éreintante. Des injonctions retentirent dans les rangs des humains, réclamant la destruction et l'immersion des monolithes. Les guerriers ne pouvaient plus supporter la vue de ces symboles de puissance des êtres d'Ib et de leurs étranges et repoussantes divinités. Nous abattîmes les structures à l'aide de longues cordes et les tirèrent jusqu'aux rives du lac. C'est lors de l'abattage d'une de ces pierres que j'accomplis mon plus haut fait d'armes. Épuisé, l'esprit troublé, la pierre s'abattit sur ma jambe, la brisant sur le cou. Lors du retour triomphal vers Sarnath, je fus transporté avec les autres blessés. Je profitai du voyage de retour pour interroger les autres guerriers estropiés. Je ne fus pas surpris quand aucun d'eux ne me parla d'une blessure commise par un être d'Ib. Certains m'avouèrent avoir été touchés accidentellement par un projectile des frondeurs ou frappés malencontreusement par un guerrier dans la confusion. D'autres, comme moi, avaient été blessés au cours de l'abattage des monolithes. Lors d'une halte, je déambulais au milieu des cadavres de mes frères d'armes recouverts de leur linceul. Prétextant la recherche d'un ami, j'examinais les blessures des soldats. Aucune trace de griffes ou de crocs. J'en conclus que la mort avait trouvé ces hommes avec l'aide des frondeurs, des onagres ou des monolithes. Les sourires réapparurent timidement sur nos lèvres à mesure que nous approchions de notre cité. Mais aucune clameur, aucun cri de joie ne jaillit de nos rangs quand nous pénétrâmes dans l'enceinte de Sarnath. Les habitants accoururent vers nous, mais en voyant nos regards sombres, nos vêtements tachés de sang, de vase et de l'étrange humeur des êtres d'Ib, beaucoup se figèrent. Le polémarque ordonna à la foule de s'écarter et nous mena jusqu'au bain public. Nous nous lavâmes longuement ce jour-là. J'ai perdu le compte de mes ablutions, comme la plupart de mes compagnons. Des cris de surprise et des murmures inquiets résultèrent de la vision de l'évacuation de l'eau des bains. Une eau épaisse, verdâtre, à l'insoutenable odeur de vase, jaillissait des bouches d'écoulement. Les miasmes se répandirent dans toute la cité. Les habitants se couvrirent le visage, aspergèrent les rues de parfums et brûlèrent de l'encens dans une vaine tentative de dissoudre la senteur baignant la ville. Fort heureusement, une pluie bienfaitrice lava Sarnath dans la soirée. D'ailleurs, en compagnie de plusieurs frères d'armes, je restais nu sous la pluie presque toute la nuit. Le souvenir le plus difficile de notre retour fut sans conteste le regard de ma mère. Le lendemain, le polémarque nous libéra de nos obligations militaires. Les habitants furent enfin autorisés à nous voir. Ma mère vint immédiatement à ma rencontre quand nous sortîmes de notre citadelle trônant sur une colline du centre de la cité. Elle me serra longuement dans ses bras tout en pleurant abondamment. Elle me couvrit d'éloges et de mots tendres avant de tourner ses yeux larmoyants vers ma blessure. Je fus incapable de lui dire la vérité. Je lui racontai, comme à vous d'ailleurs, qu'un être d'Ib avait abattu une masse de jade sur ma jambe. Le visage empli de fierté de ma mère me hante encore aujourd'hui, comme le faciès grotesque de la créature que je refusais d'abattre dans la cité maudite. Nous sommes deux à connaître la vérité désormais, et tu seras bientôt le seul. La suite de mon histoire t'est familière. Je participais au défilé triomphal dans les rues de la cité parmi les blessés. Puis la ville me manifesta sa reconnaissance sous la forme d'une somme d'argent suffisamment conséquente pour créer mon atelier de parfums. Et ma fortune fut faite. Pourtant, je ne réussis jamais à me débarrasser de l'odeur des entrailles des êtres d'Ib. Je la respire encore en permanence, comme si elle faisait partie de moi. Je ne la supporte plus maintenant. J'appris la mort du grand prêtre de notre cité le lendemain de notre retour triomphal, comme tous mes compatriotes, mais je ne m'en souciais pas outre mesure. Je luttais déjà contre mes propres fantômes et terreurs nocturnes.
Antek soupira, puis se redressa, l'air soucieux.
« Entends-tu le bruit des vagues, mon enfant ? Il me semble qu'elles se jettent de plus en plus férocement sur les digues de la cité, d'année en année. »
Le vieil homme poursuivit.
« Prends cette tablette de cire. J'ai noté les détails de ma succession. Je te lègue la parfumerie et le domaine. Tu es le plus capable de ta génération et ta carrière des armes touchera bientôt à sa fin. Porte le fardeau de la vérité, puis transmets-le à ton héritier. Je ne sais pas si tu dois me remercier ou me maudire. »
Iphiclès voulut répondre, mais le vieil homme sembla s'affaisser sur lui-même. Le jeune homme remarqua même un fugace sourire avant que son aïeul ne ferme les yeux. La respiration calme du vieillard résonna bientôt dans la pièce. Le jeune guerrier se leva calmement et quitta la maison le plus discrètement possible. Bien que profondément troublé par les révélations de son aïeul, il ne put que sourire triomphalement en parcourant la tablette de cire. En quittant le logis de son ancêtre, il aperçut une silhouette vagabonde entre les haies fleuries. Il héla l'intrus, mais celui-ci disparut dans l'obscurité. Le jeune homme ne put qu'apercevoir brièvement un masque de carnaval à l'effigie des êtres d'Ibe avalés par l'obscurité. Iphiclès reprit alors son chemin, embrassa le domaine de son regard, bomba le torse et s'approcha d'un rosier non loin de là. Il saisit délicatement une fleur entre ses doigts, admira les pétales bicolores d'un rouge rubis au revers blanc et nacré. Il adorait ce rosier depuis son plus jeune âge. Il avait souvent offert, à sa mère et à sa future épouse, de magnifiques bouquets de ces fleurs remarquables. Il se pencha, inhala profondément la rose et ne put s'empêcher d'émettre un cri mêlé de surprise et de dégoût. La rose exhalait une méphitique odeur de vase. «